Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un virage finalement très récent. Xi Jinping a fait modifier la constitution en mars dernier pour devenir président à vie. Jamais leader chinois n'aura concentré autant de pouvoir depuis Mao Tse-tung. Or Xi Jinping est une figure que les Occidentaux commencent à peine à comprendre. Les Allemands ne sont-ils pas sortis de leur réserve diplomatique en février pour dire haut et fort la dangerosité et l'agressivité du projet chinois ? Car Xi Jinping n'offrira pas à son peuple la révolution culturelle, comme Mao, ni l'accès à la consommation, comme Deng Xiaoping, il lui offrira la conquête du monde. Conquête économique, mais aussi militaire et idéologique.
L'Instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Romain Franklin.
Oui, bonjour.
Eh bien voilà, vous êtes un ancien correspondant en Chine. Vous avez travaillé notamment pour le journal Libération. Là, vous co-signez cette longue enquête qui est diffusée ce soir en prime time sur Arte avec votre consoeur Sophie Le Pau. Inutile, chers auditeurs, de vous acharner sur votre ordinateur. Hein, exceptionnellement, ce matin, l'émission n'est pas filmée, tout simplement parce que c'est très difficile d'enquêter sur la Chine. Non, Romain Franklin, donc vous préférez protéger votre anonymat. Voilà, j'ai bien résumé les choses.
Oui.
Vous montrez le moins possible.
C'était un film qui était quasiment impossible à faire si on n'utilisait pas certaines ruses pour le réaliser, quoi.
Voilà. Bien. Alors, de toute façon, on fait de la radio, hein. On s'écoute ce matin. À vos côtés, Xavier Delaporte. Bonjour, Xavier.
Bonjour, Sonia. Bonjour à tous.
La fenêtre de la porte, notre chronique numérique du mardi matin, s'ouvre sur la télévision russe il y a quelques jours.
Oui, il y a quelques jours, donc, la télévision russe a diffusé un sujet qui a fait parler.
Вполне возможно, кто-то из ребят посвятит себя робототехнике. Тем более, что на форуме у них есть возможность посмотреть на самых современных роботов.
Я хорошо знаю математику.
Filmé dans un salon de robotique, le sujet montre un robot humanoïde qui, sur scène et devant un public très enthousiaste, répond à quelques questions et surtout se met à danser de manière remarquablement souple pour un robot. Alors diffusée dans les réseaux ensuite, cette vidéo a connu un grand succès avant que les internautes n'émettent des doutes et que la supercherie ne soit dévalée. À l'intérieur du robot, il y avait un jeune homme. Et ce qui était promu sur scène n'était pas un nouvel androïde aux aptitudes extraordinaires, mais un costume. Mmh. Sauf que c'est pas comme ça que Russia 24, la chaîne qui était à l'origine du sujet, ne l'avait annoncé. Ce qui pourrait n'apparaître que comme une anecdote est, à mon avis, très révélateur du rapport que nous entretenons à la technologie et depuis très longtemps. Parce que cette histoire du robot qui cache un homme fait immédiatement penser à une histoire très ancienne et très célèbre, celle du Turc mécanique. À la fin du 18e siècle, un inventeur du nom de Van Kempelen a construit un automate capable de battre n'importe qui aux échecs. On découvrit assez vite qu'à l'intérieur était caché un homme, mais ça n'a pas empêché l'automate de faire le tour des cours européennes. Ce que le public aimait, c'était se laisser tromper, c'était se donner l'illusion à lui-même de la perfection machinique. Est-ce qu'on est sorti aujourd'hui de ce rapport magique aux machines, nous, êtres rationnels du 21e siècle ? Il y a quelques jours, je discutais avec un monsieur dont le travail consiste à s'occuper d'un des rares supercalculateurs que la France compte. Un supercalculateur, c'est un ordinateur capable de faire des calculs hyper compliqués qui demandent une puissance extraordinaire. Alors, quand j'ai demandé à ce monsieur à quoi ressemblait cette machine, il m'a répondu, il occupe une grande pièce, et puis il y a des diodes et des petites lumières qui clignotent dans tous les sens. Et je lui dis, elles servent à quoi ces lumières ? Il dit, rien du tout. Tous les paramètres de contrôle apparaissent sur des écrans qui sont en dehors de la salle. Les lumières, c'est juste pour faire plaisir aux financeurs quand ils viennent visiter et voir l'ordinateur. Cette histoire me rappelait ce que j'avais lu sur les Internet Exchange. Vous savez qui sont ces lieux où on se fait s'interconnecter les différents réseaux qui composent l'Internet. Quand dans les années 1990, au temps des premières autoroutes de l'information, il a fallu construire ces lieux et donner envie aux investisseurs, les constructeurs ont fait appel à des designers qui se sont demandé comment rendre ces lieux attractifs. Alors ils ont décidé de leur donner l'aspect non pas de l'Internet lui-même, mais de ce qu'on pourrait imaginer que soit l'Internet. Et donc ils ont mis des diodes et des lumières partout qui clignotent mais qui servent absolument à rien. Bref, ils sont allés puiser dans l'imaginaire de la science-fiction pour nous donner à voir ce que nous avions envie de voir plus que ce qui était réellement. Car nous vivons une époque étrange où ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la technique est irreprésentable. Internet, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, ça n'a pas d'image, ou presque. Énorme problème pour la presse, qui utilise toujours les mêmes photos infâmes pour représenter tout ça. Oui. Pour la télévision, qui ne sait pas bien quoi montrer, et pour le cinéma, qui a recours, pour représenter les machines, aux mêmes métaphores visuelles depuis Tron, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70. Seuls les robots échappent à ça. Donc, quand un nouveau robot apparaît, même suspect, il n'est pas étonnant qu'on se jette dessus. Peu importe qu'il soit vrai ou pas, qu'on soit trompé ou pas, on aime s'illusionner. Finalement, depuis le XVIIIe siècle, pas grand-chose n'a changé.
Voilà, des rêves et de la technologie. C'est la fenêtre de la porte et c'est à réécouter sur franceinter.fr. Merci Xavier.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Mon invité, donc, Romain Franklin, journaliste, co-auteur de cette enquête qui sera diffusée ce soir sur Arte, Le Monde selon Xi Jinping, le président chinois, l'un de vos témoins qu'on entendra ce soir.
Ce dont on s'aperçoit, pas forcément à l'étranger, c'est que quotidiennement, la propagande chinoise nous dénonce, dénonce nos valeurs, essaie de lutter contre tout ce à quoi on croit comme idéaux politiques et idéologiques. Donc on est dans une guerre idéologique frontale, en fait, avec la Chine populaire. Mais c'est une guerre qu'on a du mal à appréhender lorsqu'on n'est pas en Chine même, et qu'on ne parle pas chinois.
L'histoire de ce film, finalement, c'est l'histoire d'un Occident qui commence à peine à ouvrir les yeux et qui ne possède pas toutes les clés de compréhension. Cette guerre idéologique, il faut d'abord la comprendre en Chine elle-même, où la dictature Romain Franklin a été entièrement repenser ces dernières années. Ce n'est pas du tout un héritage politique que l'on vit aujourd'hui en Chine. C'est une forme d'autoritarisme politique entièrement repensée ces dernières années.
C'est-à-dire l'avènement de Xi Jinping au pouvoir en 2012 est véritablement un tournant. C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà une direction relativement collégial, c'est-à-dire que on avait un politburo avec 7 ou 8 membres, mais enfin il y avait une collégialité qui dirigeait. Maintenant, Xi Jinping est devenu le président à vie, potentiellement, mais personne ne doute qu'il le sera. Et donc c'est devenu, c'était une dictature, collégiale. Maintenant, c'est une dictature tout court, quoi.
C'est ça, avec l'idée que la dictature va garantir la stabilité intérieure, grâce à laquelle ensuite la Chine pourra se déployer. Ça passe d'abord par une chasse aux tigres et aux moucherons, une campagne de lutte anti-corruption. Avec d'abord, il faut parler du côté extrêmement massif de cette campagne, Romain Franklin. Ce sont des arrestations spectaculaires.
Alors oui, dans son ampleur, on dépasse maintenant le 1,5 million de fonctionnaires qui ont été disciplinés ou mis en prison. Alors évidemment, Xi Jinping en priorité quasiment a fait tomber les gens qui étaient opposés à son projet nationaliste, en fait, de renouveau de la Chine, c'est comme ça qu'il l'appelle.
Alors on va y venir à ce projet nationaliste, mais c'est vrai que cette purge, elle est absolument phénoménale, qu'en effet il en profite pour faire condamner ses adversaires politiques, et qu'il n'hésite pas à employer des méthodes qu'il a connues lui-même enfant, sous la révolution culturelle et sous Mao, notamment des aveux et des repentirs diffusés à la télévision nationale.
Je n'aurais pas dû m'exhiber sur les réseaux sociaux. Je suis une petite fille matérialiste.
Je n'aurais pas dû publier ce rapport à un moment aussi sensible.
Comment est-ce possible, Romain Franklin, qu'un homme qui a vécu ça et qui l'a vécu dans sa chair sous la révolution culturelle, il est un prince rouge, son propre père a été désavoué, tombé en disgrâce sous Mao, a vécu les procès, les humiliations publiques, les séances de délation collective. Comment est-ce possible que lui-même, remette en selle ses méthodes?
C'est-à-dire qu'il a tiré la leçon de ça, mais à l'envers du miroir. C'est-à-dire qu'il s'est dit plus jamais je ne serai comme mon père, jamais je ne serai persécuté. Donc il faut que je sois comme Mao qui a persécuté mon père, et donc que je sois le plus fort et que je domine tout le monde. Et comme ça, au moins, je serai certain que ça ne m'arrivera jamais.
Ce qui est très intéressant justement dans cette enquête, c'est qu'on voit bien comment coïncide et converge la revanche d'un homme, celle que vous racontez, qui a été meurtri dans son enfance et dont la famille a été humiliée publiquement, et la revanche d'un peuple parce que finalement, ce sont tous les Chinois qui, à travers Xi Jinping, vont devoir retrouver une nouvelle fierté et un pouvoir chinois qui doit retrouver une nouvelle légitimité.
Oui, légitimité, c'est le mot, en fait. Oui. C'est ce qui explique... Parce que le communisme n'a plus de légitimité. Même en Chine, le communisme en tant qu'idéologie n'a plus de légitimité. Et donc, le programme de Xi Jinping, c'est le nationalisme. Et donc, diriger la nation, comment dire, en idéal... alors, ça va dans tous les sens. Donc, on explique que la Chine a 5000 ans d'histoire, alors que c'est même pas possible, puisque l'écriture chinoise n'a été inventée qu'il y a 3200 ans. Donc, avant l'écriture, il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'histoire est réécrite dans tous les sens. Tiananmen, ce qui s'est passé à Tiananmen en 89 n'a pas existé. La grande famine de Mao, entre 36 et 45 millions de morts, n'a pas existé. C'est pas du tout dans les livres scolaires. Les Chinois ne le savent pas, ça. Ils sont pas au courant.
Est-ce qu'il y a là un processus similaire à celui de la Russie que les Américains et que les Européens ont du mal à comprendre, c'est-à-dire le besoin de retrouver une fierté, un pouvoir politique qui a besoin de se retrouver une légitimité, et là-dedans, du coup, ce besoin d'unité, de grandeur et l'idée de renouer avec l'Empire, tout simplement.
Alors, la Russie, je ne sais pas, mais pour la Chine, oui, c'est ça l'idée. C'est effectivement de renouer, c'est-à-dire de cette légitimité révolutionnaire qui existait avant, avec la révolution maoïste, n'existe plus. Donc, le parti veut rester au pouvoir, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut dire que le parti représente l'État, et donc la nation, et donc c'est un espèce de tour de passe-passe, en quelque sorte.
Avec ce que vous racontez bien, des agressions occidentales et des guerres qui ont laissé des souvenirs extrêmement douloureux en Chine également. Et d'ailleurs, la Chine se réarme, et ça c'est une partie du film qui est totalement édifiante, à une vitesse vertigineuse, avec énormément de moyens. Et d'ailleurs, vous le précisez bien, ce qui est très intéressant et paradoxal, c'est que d'un côté, l'Amérique, c'est Satan. De l'autre côté, on ne cesse de copier l'Amérique.
Le modèle pour la Chine, c'est ça le grand paradoxe, c'est le Satan américain, c'est l'impérialisme américain. La Chine fait tout, la puissance chinoise fait tout pour copier les États-Unis dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire.
Ce que nous sommes susceptibles de voir, c'est une armée chinoise de plus en plus compétente, de plus en plus redoutable, de plus en plus conquérante et tournée vers l'extérieur. Et ce sera un grand défi pour le monde.
Voilà, les Américains qui ouvrent les yeux et qui semblent quand même passablement effrayés par ce qui est en train de se passer, Romain Franklin.
C'est-à-dire que au moment où la Chine et l'Occident se sont rencontrés à la fin des années 70, début des années 80, il y avait deux prémices très importantes. Le premier, c'était que la Chine allait devenir une économie complémentaire de l'Occident. Or là, avec le programme de Xi Jinping, qui est d'avoir une supériorité technologique en 2025 sur tous les produits technologiques stratégiques, la Chine devient un concurrent, donc elle n'est plus complémentaire.
Non.
Et le deuxième prémisse, c'était qu'il y aurait une convergence démocratique, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la Chine serait devenue, se serait démocratisée, etc. Or là, c'est devenu totalement impossible, puisque le président s'est nommé président à vie, donc là, tout est bouclé.
C'est l'inverse, qui a été délibérément mis en place.
Et donc, on assiste en fait à un conflit quasiment existentiel, en fait, puisque la Chine veut être le numéro un économique et militaire dans le monde. Donc, prendre la place des États-Unis. Donc, ce qui se passe en ce moment, ça a l'air d'être une guerre commerciale, mais en fait, ce n'est que le début de cette espèce de lutte existentielle qui déterminera qui sera le numéro un dans 50 ans.
Même voir un peu moins à la vitesse où ça va, en tout cas si on en croit votre enquête. La guerre commerciale, par ailleurs, est aussi une guerre idéologique. Et ça, c'est la dernière partie de ce film qui est à la fois complexe et extrêmement riche. Les routes de la soie, 1 000 milliards de dollars pour construire des chemins de fer, des ports et autres infrastructures commerciales et de transport absolument gigantesques partout dans le monde pour les construire, voire pour les exploiter dans certains pays pauvres sur lesquels le piège s'est refermé, comme au Sri Lanka, qui ont perdu carrément une partie de leur souveraineté, mais également en Europe. Voilà, l'Europe finalement va se fracturer suite à la crise économique. La Chine va en profiter. On écoute le ministre allemand qui, comme vous le dites, est sorti de sa réserve diplomatique en février dernier.
L'initiative d'une nouvelle route de la soie n'est pas, comme le pensent certains en Allemagne, un rappel sentimental des voyages de Marco Polo. Au contraire, elle représente la tentative d'établir un système global pour façonner le monde dans l'intérêt chinois. Il ne s'agit plus seulement de l'économie. La Chine développe une alternative globale au système occidental, qui, contrairement à notre modèle, ne repose pas sur la liberté, la démocratie et les droits de l'homme.
Il y a derrière cette conquête commerciale un projet idéologique, Romain Franklin.
Oui,
un projet politique et idéologique.
Oui, idéologique. La Chine veut imposer sa vision du monde, veut changer les règles de l'ONU, notamment sur les questions de droits de l'homme. Elle veut que le premier droit de l'homme soit le droit au développement et non pas le droit de vote ou les droits démocratiques.
Et ce qui est très intéressant, c'est que la Grèce, cette année, s'est désolidarisée des autres pays européens pour soutenir la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine a volé à son secours et a racheté le Pirée. De la même manière que le Portugal se désolidarise pour défendre les Chinois des autres pays européens. Et donc c'est là qu'on voit que la puissance économique chinoise va avoir des conséquences politiques et idéologiques très très profondes chez nous en Europe.
C'est-à-dire que la Chine, pourquoi elle investit ? Elle possède déjà 10% de la capacité portuaire européenne, ce qui est quand même assez étonnant. Mais pourquoi elle fait ça ? C'est certes pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour avoir une porte d'entrée dans les milieux politiques occidentaux et influencer, donc transformer son capital argent en capital politique.
Donc là, vous les citez, nommément, David Cameron, par exemple, la Chine s'est offert les services et les conseils de tout un tas d'hommes politiques, plus ou moins retirés des affaires. David Cameron, ancien Premier ministre britannique, qui aujourd'hui dirige un fonds d'investissement qui travaille justement sur ces routes de la soie où circulent des milliards de dollars. Donc si je comprends bien, David Cameron, après avoir bousillé l'Europe avec son référendum sur le Brexit, aujourd'hui, il se fait beaucoup d'argent en travaillant main dans la main avec les Chinois. Chinois, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui, c'est ça. La stratégie de la Chine consiste, d'influence, consiste à courtiser les anciens hommes politiques occidentaux. Et en France, c'est par exemple le porte-parole de la Chine, quasiment, c'est Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin.
Dominique de Villepin, il n'est pas dans le film, mais Jean-Pierre Raffarin,
oui.
On le voit faire signer le livre de Xi Jinping à Xi Jinping, de manière tout à fait déférente, on va dire, voilà.
Voilà. Donc ces hommes-là, ces anciens hommes politiques, aiment bien être mis en valeur par la... Enfin, il y a une espèce de culte du pouvoir. Quand on voit que Xi Jinping possède tant de pouvoir, quand même, c'est quand même l'un des hommes les plus puissants du monde. On se valorise en s'approchant de lui, d'une certaine manière.
Merci beaucoup, Romain Franklin. Le Monde selon Xi Jinping, ce soir sur Arte, 60 jours, également en replay. Si vous l'avez manqué, je vous le recommande. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebaï.
Bonjour Saint-Denis.
Alors, dans Grand Bien vous fasse.
Peut-on vraiment vieillir heureux ? Si oui, à quelles conditions ? Comment abordez-vous la vieillesse ? Avez-vous peur de ce processus inéluctable ? 01 45 24 7000. Vous me regardez avec un air.
Mais non.